France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Juliette. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera de la pièce En attendant Godot, de Samuel Beckett, telle que mise en scène par Alain Françon. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier, qu'est devenu notre sens de la fête depuis la fin de la pandémie. Philippe Stenner, professeur de sociologie à la Sorbonne, fera le point sur nos pratiques festives. 19h50, Affaires à suivre en compagnie de la metteuse en scène Eugénie Ravon. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon et Grégory Wallon à la prise de son. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Arnaud.
Votre nouvel album, Chanson de là où l'œil se pose, est sorti la semaine dernière. Dire tout de suite que vous serez en concert à La Cigale à Paris les 5 et 6 juin prochains. C'est complet le 6, dépêchez-vous pour le 5.
Oui.
La première chose qu'il nous faut dire. En tout cas, ça me donne l'occasion de vous recevoir ce jour pour revenir sur quelques moments importants de votre parcours et d'essayer de savoir comment naissent vos chansons. Alors, si votre père était saxophoniste, il fut membre de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Chez vous, vous dites qu'on écoutait surtout de la musique cubaine, du jazz, du classique, que la chanson française. Alors, à part un disque de Brel et un de Ferré, c'était celle qu'on entendait surtout dans les émissions télé de Maritier et Gilbert Carpentier. Vous avez commencé par le piano, classique, Chopin, Poulenc, mais comment en êtes-vous venu à découvrir Brassens ou Bobby Lapointe ?
Je pense que c'est pratiquement des découvertes que j'ai faites toutes seules. En réalité, c'est la musique que j'ai découverte par moi-même. Pas mal de choses de musique classique aussi. Donc chez moi, on écoutait surtout de la musique latine, de la musique du tango, de la musique orientale, un peu de tout, mais pas tant de musique classique. Et puis, je sais même pas comment ça a commencé. Je crois que mes premières amours, ça a vraiment été Jacques Brel. Brassens aussi, j'avais une mini cassette de chansons de Brassens que j'écoutais en boucle. J'adorais ça. Je sais pas, la parole chantée, ça m'a toujours plu parce qu'il y avait les conteurs d'histoires qui m'ont plu en réalité aussi dans la chanson. Ce sont les gens qui racontent des histoires. Donc c'est effectivement, Brel et Brassens sont parfaitement illustratifs de ça. Voilà, je sais même plus comment c'est venu. Je sais même plus, mais ça m'a bien plu assez vite. J'aimais bien comprendre. Je me suis assez vite éloignée par exemple des chansons, même si j'ai écouté par ailleurs des musiciens de ma génération et des groupes comme Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Ça me faisait pas le même effet parce que je comprenais pas trop ce qu'ils racontaient quand même.
Et à quel moment vous commencez-vous à écrire des chansons? J'ai lu qu'il y en a une dès l'âge de 15 ans.
Ouais, je pense que j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai chanté d'abord. J'ai trouvé ce truc assez sympathique de, je relevais les chansons d'oreille, j'arrivais à les chanter en m'accompagnant, ce qui fait que ça me donnait une espèce de pouvoir magique sur les autres quand j'étais ado. Et une espèce de particularité aussi qui était que dès qu'il y avait un piano, on me demandait de chanter une chanson. Ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si j'avais juste joué du piano. La chanson, c'est venu. En plus, c'était rigolo parce que comme je connaissais un petit peu des chanteurs comme Boris Vian, qui chantait des chansons, qui a écrit des chansons assez drôles, caustiques, et Bobby Lapointe, je connaissais par mon père, pour le coup, parce que mon père était musicien et il avait joué sur les albums de Bobby Lapointe. Donc, il avait ramené ça à la maison. À l'époque, personne connaissait Bobby Lapointe. Et donc j'avais ces chansons un peu marrantes, ce qui fait que ça me faisait un répertoire donc pour impressionner tout le monde. Et assez rapidement, c'est assez logique qu'on se mette à se dire tiens moi aussi je vais écrire une chanson marrante, on a une idée rigolote et donc voilà j'ai commencé à écrire quelques chansons. Mais ça je trouvais ça très compliqué, mais j'étais pas sûr que ce soit très intéressant ce que j'avais raconté, donc j'ai assez vite laissé ça aux autres.
Ouais, bon, il fallait vivre peut-être d'abord avant de pouvoir écrire, on en reparlera, mais on avance dans le temps, direction le Méchant Loup.
Ouais.
C'est quoi le Méchant Loup ?
Le Méchant Loup, c'était un restaurant à Toulouse avec une boîte de nuit en dessous. Et au Méchant Loup, il y avait un piano et des pianistes. On était jusqu'à 3-4 pianistes dans la soirée.
À se relayer.
À se relayer, absolument. Et moi, j'ai été embauchée là-dedans par hasard, parce que le pianiste, au moment où j'y étais, c'était un gars que je connaissais. Et moi, j'y avais été tout à fait avec des amis comme ça pour dîner, tout simplement. Et puis, il m'avait demandé si ça m'intéressait de chanter 2-3 chansons. Donc, j'ai chanté 2-3 chansons et le patron est arrivé droit sur moi en me disant « Qu'est-ce que vous faites mardi ?»
Bon.
Alors, on était dimanche soir, c'était fermé le lundi. Donc, j'ai commencé ma carrière de pianiste de bar et de restaurant comme ça.
Alors, de là, effectivement, à décider à un moment de mettre les études de côté pour vous consacrer à la musique, c'est quand même un sacré pari. Et puis cette école des pianos-bars, elle est réputée pour être rude, mais très formatrice. Qu'est-ce qui fait que vous franchissez le cap ?
En réalité, j'avais déjà plus ou moins arrêté les études. Ça me plaisait pas. C'était pas mon truc, quoi. La fac, c'était pas mon truc. Jusqu'au moment du bac, j'aimais bien l'école. Parce qu'il y avait un côté... C'était très cadré, quoi. Fallait être là à l'heure. Si on était absent, il fallait un mot des parents. Ça m'allait bien, en fait, ce cadrage. La fac, ça a été un désastre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas obligé d'être là parce que personne ne vous demande de compte, à part au moment de passer les partiels, j'y allais plus, quoi. Alors, j'ai commencé à faire un peu de lettres. Ça m'intéressait moyen. Après, j'ai fait musicologie. C'était plus intéressant, mais surtout, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des musiciens et donc de passer du temps avec des gens qui de la musique et où on a fait plus de musique que d'études. À un moment donné, voilà, on a arrêté d'aller à la fac.
Alors, avance rapide et résumé qui va l'être aussi. 85, vous faites partie des découvertes du Printemps de Bourges, Juliette. Rebelote l'année suivante. 89, première partie de Joël Barré et Gilbert Lafaye. Là encore, école rue, dans les premières parties, vous en avez fait beaucoup. Sauf que là, vous mettez le feu et que Leïla Kuckerman prévient sa copine Miziane Alès, qui va jouer un rôle important dans cette carrière naissante. 90, première partie de Jean Guidoni. Là, une autre rencontre évidemment importante, celle de l'écrivain et parolier Père Philippe, qui va être l'auteur de nombreux titres de vos premiers albums. 91, le prix du jury du public du tremplin de la chanson des Hauts-de-Seine, ce qui vous permet de produire vous-même votre premier album, Qu'est-ce? Je le dis évidemment avec l'accent. Dit en 15 secondes, ça va vite, mais vous vivez comment ces années-là, Juliette?
Vite.
Vite aussi?
Oui, en fait, je m'ennuie pas. J'ai pas l'impression de. J'ai toujours vécu comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas le côté vite, les ambitions, vite, il faut que je. Moi, j'étais contente de tout ce qui m'arrivait au moment où ça m'arrivait. C'était bien, c'était dans l'ordre des choses. En même temps, je pense que ça donne une assise un petit peu plus solide d'avancer gentiment plutôt que de brûler des étapes. Il se trouve qu'effectivement, dans ma carrière, j'en ai croisé des gens qui allaient vite et qui sont arrivés plus vite et puis qui sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc le côté et puis j'ai cette nature de pas être j'ai pas le stress de l'ambition et du truc vite, il faut arriver, je veux être célèbre, je m'en fous d'être célèbre en fait. En réalité, c'est aussi ça. C'est que mes des ambitions, j'en ai, mais c'est pas des ambitions ni de popularité au sens donc de grande publicité. J'ai pas des ambitions de gagner beaucoup d'argent, je fais ce qui me plaît depuis toujours avec une constance qui est constatable maintenant. J'ai pas bougé beaucoup. Heureusement que j'ai un peu évolué parce que j'ai plus l'âge que j'avais, mais j'ai pas eu cette espèce de truc dévorant de me dire il faut que je sois à 30 ans, il faut que le monde soit à mes pieds. Je savais que c'était pas ça que je voulais.
Alors dans les évolutions importantes, on va bien sûr s'intéresser au présent, mais pour en parler, il faut dire que donc il y a eu les années avant Pierre Philippe, avec puis. Après, lui, une collaboration qui va prendre fin avec l'album Rime Féminine, sorti en 96. Alors, vous en avez composé, Juliette, la quasi-totalité des musiques, et lui, la quasi-totalité des paroles. Et c'était un album où vous incarniez des femmes. Ça va de Violette Nozière à Billie Holiday, à Bonnie Parker, aux Sœurs Papin, chacune des deux. Mais plus tard, au moment de la sortie du Festin de Juliette, vous direz dans un entretien, Rime Féminine est un disque de comédienne. C'est pas moi du tout, alors qu'aujourd'hui, c'est mon propos. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est vraiment 100% Juliette ?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire les chansons que je chante, oui, ça change un petit peu le propos, quoi. Forcément. Même, même si le travail qui s'était fait avant avec Pierre-Philippe était un travail qu'on a fait ensemble, qu'on a fait avancer ensemble. Il n'arrivait pas le matin en me disant voilà le texte et puis ça ira bien comme ça. Donc on a travaillé ensemble réellement. Mais le simple fait de dire voilà, c'était un disque de, je pense que c'était un disque de comédienne dans la mesure où il y avait des personnages, ça me serait pas venu à l'idée moi toute seule d'écrire ça. Notamment une tenancière de bordel pour où les pensionnaires sont des hommes, il y a une nonne enamourée du Christ, hein, complètement amoureuse du Christ. Donc c'est pas tellement des personnages dans lesquels je me reconnais. C'est amusant à jouer, par contre, c'était très amusant à faire. Mais c'est voilà, à partir d'un certain moment et à partir du moment où on écrit, même malgré le fait que je garde une grande pudeur dans ce que j'écris, qui me semble plus intéressante qu'un dévoilement de ce qui est mon moi profond, qui est tout de même entendable dans ce que j'écris. Mais voilà, j'aime bien raconter des histoires, on en revient à ça. Mais en revanche, c'est mes histoires, c'est mes idées, c'est mes... c'est des espèces de fantasmes, on va dire comme ça, pour employer un grand mot, mais... voilà, c'est des histoires que j'invente dans ma tête.
Mais alors, de ce fait, ça change quoi en concert de porter vos titres, alors que vous avez fait vous-même avec vos petites mains, comme vous l'écriviez dans les notes du Festin de Juliette?
Ça change une chose essentielle, c'est que quand je les écris, je sais que je vais les jouer. Donc j'y pense. Et je me dis, est-ce que cette chanson-là, une fois qu'elle est faite, est-ce que je vais me plaire à la chanter plus que trois fois? Et comme c'est ce qui préside à l'écriture, je fais en sorte de m'écrire. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui aurait le talent de faire ses propres vêtements, quoi. Je me fais mes propres vêtements. Je me dis, je vais les porter, je vais les faire solides en plus parce que je vais les porter longtemps. Et puis j'ai envie de m'amuser avec. Après, je suis pas en adéquation avec tout ce que j'ai chanté aujourd'hui, avec tout ce que j'ai chanté il y a 30 ans. Mais globalement, si je les ai écrits, il y a des chansons que je ne renierai pas maintenant. Toujours.
Alors, on va continuer bien sûr à parler des histoires et donc des paroles, mais parler aussi de musique, évidemment. Vous proposant d'abord d'écouter une archive de Claude Nougaro, encore un artiste dont vous avez fait la première partie, une archive de 97 sur France Bleu.
Il ne faut pas oublier quand même, j'ai été cloué sur la syntaxe et que j'ai continué malgré tout à faire quand même une chanson qu'on pourrait qualifier de littéraire par les exigences de l'écriture, par une culture, n'est-ce pas, que j'ai acquis chez les grands poètes du 19e siècle et que je suis un adorateur de la métrique alexandrine, les octosyllabes. Je connais très bien cette technique. Le rêve, c'était justement de faire des noces comme si j'étais un prêtre un peu barbare entre cette musique noire, n'est-ce pas, cette âme noire, cette danse noire et les ressorts de ma syntaxe à travers le maniement des consonnes, le jeu des voyelles, toute la palette de rhétorique, enfin dans le bon sens du mot, quoi, le jeu des formes, mais en persistant et en signant. Quoi qu'il en soit, même si ça vous fait poète-poète, je suis un poète.
Alors Juliette, c'est vrai que cette question de l'adéquation des mots et de la musique, elle est évidemment très présente aussi dans votre œuvre, dans vos albums. Le dernier ne fait pas exception. Vous convoquez les musiques du monde entier. Mais alors, qu'est-ce qui fait l'adéquation? Et on va prendre un exemple très concret du dernier album. On va écouter dans quelques instants le morceau « Dans le marc de café ». Alors, qu'est-ce qui détermine que ce morceau-là, ce serait un tango? Autrement dit, comment ça s'écrit, une chanson de Juliette?
Alors, je vais vous contredire, c'est pas un tango, c'est un boléro, le café. Mais c'est pas grave.
J'avais envie de danser le tango.
Ouais, mais vous pouvez. C'est un orchestre de tango qui m'accompagne, par ailleurs. Je ne sais pas, en fait. Il y a pas mal de mystères qui se passent quand on écrit. Il y a quelque chose de la volonté d'avoir fait un boléro. C'est que j'étais en concert à ce moment-là avec cette équipe, donc avec Sil Bando, qui est un orchestre de tango, et que j'ai écrit cette chanson pour ce concert-là et que je me disais que ça suffisait les tangos et les milongas, que ça serait bien de leur faire jouer un boléro.
Bon, tant pour moi. Hein.
Donc en fait, c'est devenu un boléro un peu par la force des choses. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est bien gentil de dire je vais faire un boléro, qu'est-ce que je raconte dessus, quoi. Voilà. Donc ça a été plutôt un petit peu dans l'autre sens que ça s'est passé. Et je trouvais ça assez... Voilà, Bah, l'histoire du café, d'abord, parce que c'est du café, de lire dans le marc de café, il y a un côté un peu... qu'est-ce que je peux dire, pas un, c'est pas antique le mot, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas celui-là que je voudrais employer, mais c'est pas désuet non plus, mais il y a quelque chose d'un peu image du passé, comme ça on imagine un peu les
un peu vieillot, un peu sépia, quoi,
un peu sépia, un peu vieux fantasme comme ça de fêtes foraines dans lesquelles on va se faire lire l'avenir et comme ça un peu magique et voilà, ben le Boléro, elle est très très bien avec ça, donc tant qu'à faire, pourquoi pas.
Alors pour pas faire ma culture musicale, qui a vraiment beaucoup de lacunes, ce sont quoi les règles du Boléro ?
Oh, c'est une question de rythmique, surtout, c'est vraiment la rythmique et Boléro, là, plutôt.
Alors ça fait quoi, tac-tac ?
C'est un truc dans le genre, d'accord. Je sais même plus très bien comment... Mais là, ça s'organise comme un Boléro, plutôt.
Très bien, alors on va découvrir...
Vous allez l'entendre, c'est Boléro. Un Boléro, ça fait pas de doute.
Ça ne fait pas de doute. Dans le marc de café, Juliette.
Dans mes soirs de brouillard, embrumé de cafards, de doutes et d'à quoi bon, comment trouver consolation? Ça ressemble à un jeu grave et sérieux, qui donne l'illusion d'une réponse à la question. Un jeu de porcelaine, de sillons et de veines, dans une tasse ébréchée, je lis dans le marc de café. Dans le marc de café, mais aussi dans les nombres, dans la lune et les ombres, et dans les cartes à jouer. Parfois bonne aventure, souvent mauvaise augure. De l'amour à la mort, j'abandonne mon sort aux noirs espoirs qu'on fait danser dans le marc de café. Mais j'ai beau me redire qu'il est vain de prédire, ma raison incrédule s'endort au rythme du pendule. Mon âme s'est perdue entre diable et pendu, à ne lire que ce qui l'arrange dans les tarots que je mélange. Et j'ai fini par croire l'oracle dérisoire de miettes consumées brûlant dans le marc de café. Dans le marc de café, les astres, les étoiles, dans tout ce que dévoilent les traces du passé. Parfois bonne aventure, souvent mauvais augure. De l'amour à la mort, j'abandonne mon sort aux noirs espoirs qu'on fait danser dans le marc de café. La solitude, les sales habitudes, il y a tant d'assassins tapis dans les lignes de ma main. Car au fond, je sais bien de quoi sera fait demain. Il n'y a pas de mystère, pas de présage, pas de sorcière. Il n'y a que le hasard de la vie qui s'égare comme elle peut, même mal, et rien dans les boules de cristal. Mais nous sommes ainsi faits, impuissants et distraits, qu'il faut nous contenter des seuls espoirs qu'on fait danser dans le marc de café. Thank you.
Dans le Mar de Café, extrait du nouvel album de Juliette. Alors, un nouvel album de Juliette, on dirait que depuis Nour, ça se mérite. On va dire que ça prend 5 ans, puisqu'il y avait eu Nour donc, en 2013. C'est J'aime pas la chanson, le suivant en 2018. Nous voilà donc de nouveau 5 ans après. Qu'est-ce qui fait que vous avez, Juliette, écrit J'aime pas la chanson, et puis 5 ans plus tard, ce nouvel album? Est-ce qu'il y a une sorte d'horloge interne qui vous dit que c'est le moment?
Alors là, pardon, en l'occurrence, il y a eu quand même des petits retards dû à des... Je sais pas, il y a eu une épidémie, un truc comme ça. Donc on a,
À ce qu'il paraît,
on a été un petit peu bouleversés dans nos habitudes. Ceci étant dit, 5 ans, c'est un bon rythme. Il y a un moment, la pléthore de production, c'est pas toujours bien finalement. C'est pas... Il faut se sentir prêt aussi pour faire un album. C'est un peu le hasard qui fait ça. Moi, j'ai une maison de disques avec laquelle je travaille en très bonne intelligence. Donc, j'ai pas de couteau sous la gorge. De toute façon, on peut pas difficilement dire à un artiste, bon, maintenant, faut faire un album. Tu mets ce que tu veux dedans. Mais il faut le faire. Donc, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Il y a des chansons qui sont dans cet album qui sont écrites depuis un petit moment. Depuis le Mar de Café, elle doit bien maintenant être le confinement, c'était quoi le premier? C'était en 2020, ouais. De 2020, ouais.
Ah oui. Et donc ça veut dire que les chansons sont là, elles reposent, et puis on a une deuxième.
Oui, après ça s'est un peu agrégé comme ça au fur et à mesure, mais parce que justement on était un peu enfermés, ouais. Un petit peu contraints d'être éloignés des tournées et de la scène, donc effectivement ça laissait du temps pour travailler à la maison, et quand on écrit des chansons, c'est bien de faire des chansons, on peut les faire un peu sans but et sans itinéraire, donc voilà, c'est un petit peu un concours de circonstances. Cet album, il était prêt depuis finalement la dernière chanson que j'ai écrite l'été dernier, c'est La Housse et la Couette, qui est la dernière de l'album, et on
la
a
première
enregistré... Ouais, qui là est la première, mais c'est la dernière que j'ai écrite.
D'accord,
en fait.
Mais je me souviens. Et que c'est
donc
la
voilà, ça veut dire on a fait ça. Ouais, je dis des bêtises en plus. Ah si, c'est ça. La Housse et la Couette, elle a été enregistrée après Le Reste, en fait. Donc ça fait un petit moment que c'est prêt, mais bon, après, comme vous savez, il y a eu quelques petits contretemps.
Oui, mais c'est dire aussi, parce que vous l'avez dit vous-même, Juliette, que dans la vie, il y a aussi la procrastination. C'était le titre qui ouvrait l'album précédent, J'aime pas la chanson. Puis voilà, la vie ne se tourne pas autour de l'écriture de vos chansons. Il y a d'autres vies à vivre.
Alors, sans doute. Et puis encore une fois, je sais pas si c'est comment dire ça, mais c'est pas un truc qui doit être automatique, genre tous les 2 ans ou tous les 3 ans, je fais un album et puis voilà bien quoi, c'est bien, c'est comme ça, c'est je prends mon temps et puis c'est bien aussi, c'est bien de se faire un peu rare. Pas rare, mais
l'époque
voilà,
manque
attendu,
de rareté.
On va dire, c'est bien.
L'époque manque de rareté. Nous pouvons en convenir.
Voilà,
mais ça correspond surtout à votre rythme. Vous ne faites pas rare pour vous faire désirer.
Voilà, c'est pas une volonté. Ça se passe comme ça, et puis ça me réussit pas mal, et puis c'est bien aussi, quoi.
Alors d'autres centres d'intérêt dans la vie. Alors je c'est un peu capillotracté, mais c'est pour vous faire entendre une voix d'une artiste que vous aimez. Je le sais. On va écouter. Colette.
Elle avait une mémoire subtile, comme la plupart des chiens à gros cerveau rond, les bulldogs, les bull terriers et les petits terriers bravançons et les boxeurs. La boxeur de mon frère aîné, elle savait plusieurs chansons. Et ma bulldog Souci, elle savait un nombre extravagant de mots. Elle les apprenait si rapidement que je m'offrais l'amusement de lui donner des défauts de prononciation. Elle aimait les fruits avec une préférence marquée pour la framboise et le raisin bien mûr, que je désignais pour elle seule, bien entendu, quand nous étions seuls, sous les noms de framboise et de raisin, avec lâche fortement aspirée, je vous en prie. Quelquefois, j'oubliais les rites, et je lui demandais, vous voulez une framboise? Vous voulez un raisin? Elle me regardait d'un air buté et ne me répondait rien. Alors je rectifiais, naturellement. Vous voulez une petite framboise ou bien un petit raisin? Sur quoi Souci s'est lancé, soulagé, avec des marques de joie et d'acquiescement, jusqu'au jour où ayant découvert que non seulement la vigne, mais la framboiseraie fructifiait à hauteur de bulldogue, elle se passa de mon aide et des vocables corrompus pour prendre vers 7 heures du matin son petit déjeuner de framboise et de raisin.
Bon, merveilleux.
Bah oui, toujours écoutez Colette, bien fou, elle a quelle place dans votre panthéon ?
Elle est en haut du panthéon des écrivains, des écrivains en général, de la langue française en particulier. Elle vient encore de parler de vocables corrompus, ce qui me met dans une grande joie. Il y a finalement une espèce de sorte d'hommage à Colette dans cet album-là. Pratiquement plus qu'à mes chiens et mes chats. En réalité, il y a un texte qui lui doit beaucoup, c'est les litanies du diable à Colette, car c'est le point de départ est une histoire de Colette. Est une histoire qui commence par le diable, je suis le diable. Voilà, qui dévoile après qui est le diable.
Concernant l'écriture, puisqu'on parle de Colette et on parle de vous, Juliette, est-ce qu'il y a... Alors vous le disiez, il y a des chansons qui arrivent comme cela, mais arriver comme ça, on n'y croit pas complètement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une phrase ? C'est une mélodie ? Ça commence, vous disiez tout à l'heure, pour le boléro, que ça avait commencé par la musique, puis le texte. C'est souvent le cas ? Ça peut être l'inverse ? Ça dépend des fois ?
Ça dépend des fois. C'est vraiment, ça dépend des fois. Là, l'histoire du boléro, c'est vraiment parce que j'avais envie de faire un boléro. Il a bien fallu mettre un texte à un moment. ça peut être... je sais pas, le fait que ça soit tellement compliqué de mettre une couette dans une housse que le jour où vous le faites et vous vous dites c'est finalement peut-être bien un sujet de chanson parce que je suis pas seule au monde à connaître ces affres.
Ça permet de faire rimer housse avec Proust.
Oui, ce qui me fait beaucoup rire.
C'est une aussi, des premières. C'est pour ça que je le cite.
C'est une des premières que j'ai trouvé des rimes et je me suis dit c'est trop drôle, il faut absolument que je trouve le moyen de le mettre. Marcel Proust. Et oui. voilà, donc ça c'est venu vraiment. Je me suis dit, ça peut être un sujet de chanson, mais à faire une chanson, il faut que ce soit une chanson épique.
Mais alors, quand vous dites ça, est-ce que vous asseyez une table, vous prenez un papier, un stylo, ou est-ce que ce sont des notes dans un carnet ?
Non, c'est des notes dans ma tête d'abord.
D'abord,
c'est dans ma tête. Après, ça va être du carnet, du papier, du crayon, ou bien la tablette d'ailleurs. J'écris sur ma tablette maintenant avec facilité. Mais en tout cas, toujours, ça passe par l'écriture à la main. Je tape pas d'abord. Je commence d'abord par écrire à la main parce que j'ai besoin de rayer en réalité. Je raye, ce qui me permet de regarder en dessous ce qui est rayé parce que parfois on y revient à bon escient. Ça peut être une phrase aussi, ça peut être le Seigneur des Mouches, par exemple, dans cet album, c'est le Seigneur des Mouches. Le point de départ, c'est que j'avais envie d'avoir une chanson qui s'appelle Le Seigneur des Mouches, et ça aurait très bien pu parler d'autre chose, sans doute de quelque chose d'assez diabolique, forcément. Mais en tout cas, ça devait parler d'un truc. En tout cas, j'avais envie qu'il y ait une chanson qui s'appelle Le Seigneur des Mouches. Et voilà, puis après, ça c'est... En creusant, en se disant voilà où c'est qu'on va, puis en regardant d'autres brouillons qui disent tiens, au fait, il y a ces histoires-là qu'on a envie de raconter, il y a des choses qui vont s'agréger les unes aux autres, d'autres non, il y en a qui vont rester encore oubliées jusqu'au prochain album.
Alors, on va écouter là une autre chanson de ce nouvel album, peut-être nous expliquer qu'il est dans une tonalité très différente. Ça, c'est pas un boléro, ça c'est certain. J'ai choisi La Perruque.
Ah oui, c'est pas un boléro, non ?
Ça, vous avez vu, je progresse.
Oui, non, c'est bien, là, c'est sûr que...
Avant de l'écouter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chanson, sur sa naissance ?
Alors, c'est une chanson qui, comme souvent d'ailleurs, des chansons, c'est aussi quelque chose d'agrégé. C'est-à-dire, il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, qui finit par faire une chanson. C'est vraiment... Le point de départ, c'est pas une chanson que j'ai, c'est pas un sujet que j'ai vécu en réalité. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai éprouvé ce que la personne qui chante dans la chanson va dire, mais c'est ce que je sais du deuil, c'est ce que je sais de la de toutes ces réflexions, parce que j'ai vécu quelques deuils dans ma vie quand même, toutes ces réflexions qu'on peut faire en se disant pourquoi cette personne, pourquoi pas moi, le simple fait de survivre, en fait, l'histoire de la survivance, qui est toujours une question incroyable. Et puis, l'histoire de dire aussi dans le deuil que est-ce qu'on a besoin de choses compliquées pour le deuil. Le deuil, c'est aussi dans le cœur et c'est et en même temps, les gens continuent à vivre. Tant qu'on est vivant, nous, on les maintient en vie. Toutes ces choses-là qui sont agrégées et autour d'un... J'aime bien ça, par contre. Je dois avouer quelque chose qui est un peu délicat quand on va entendre la chanson, c'est que je me suis follement amusée à écrire cette chanson. En réalité, parce qu'elle posait elle me posait plein de problèmes. D'abord, la rime à perruque n'est pas simple. En même temps, je voulais pas faire une chanson fleuve. Je voulais que ça soit relativement ramassé. Je savais exactement comment elle se finissait. En fait, cette chanson, elle n'existe que parce que j'ai le début et la fin. Je sais que je veux que l'histoire du couperet sur la nuque. Évidemment, pour une perruque, je trouve c'est voilà, ça, j'avais envie de ça déjà. Et puis après, j'avais la fin, c'est-à-dire la conclusion de la chanson, qui est quelque chose de relativement iconoclaste, finalement, qui est comment on se débarrasse de ce deuil, comment on finit par faire ce deuil avec quelque chose qui est un peu terrible et un peu surprenant et un peu drôle, en réalité.
On va découvrir La Perruque.
Je me souviens seulement qu'elle t'allait ravir. On ne devinait rien et surtout pas l'avenir. On ne se doutait pas à sa belle couleur entre les mèches brunes aux reflets de pudeur que c'était un couperet qui sur ta nuque, ta perruque. Peut-être aurais-je aimé que ce soit à l'envers, à moi le grand trou noir et à toi le désert, à toi les lendemains sur des sables mouvants. Le sentiment coupable de n'être que vivant, à moi comme une insulte, la pitié qui reluque ma perruque. Un matin j'oublierai d'avoir les larmes aux yeux. Me réveillerai de ce long deuil sans Dieu. Je me consolerai avec le temps qui passe, le vent qui désapprend et la mer qui efface ton regard, ton visage et tout aussi caduque ta perruque. Moi je ne voulais rien et je n'ai rien gardé. Ce n'est que dans le cœur qu'on dresse les mausolées. Pourtant je sais déjà le sale coup de poignard quand je retrouverai tout à fait par hasard une pauvre relique parmi mille autres trucs, ta perruque. Thank you. de ces cimetières dont on pousse la grille pour songer aux mystères qui font de nos amours des amours impossibles. Je finirai par mettre sur la tête impassible d'une pleureuse de pierre ou d'un ange de stuc. Ta perruque.
La perruque, extrait de ce nouvel album de Juliette. Il nous reste quelques secondes pour conclure cet entretien, mais un nouvel album, des nouvelles chansons, ben c'est aussi les porter à la scène. Vous y serez dans quelques semaines. Ça procure quel type d'émotion, de sensation, de se dire qu'on va les offrir au public?
Oh, c'est encore lointain pour moi. Je sais pas. Mais de toute façon, je sais que je vais me régaler parce que c'est le meilleur moment de la vie. C'est pour moi le contact avec les gens et d'être sur scène et de chanter des chansons. Donc je vais me régaler. Je pense qu'il y a des chansons qui vont avoir une autre vie aussi. C'est une autre rencontre. C'est-à-dire que là, on était en studio. J'étais chez moi. J'ai écrit des trucs. Je sais pas lesquels auront le plus d'impact. C'est ça, va être la surprise. Et ça va beaucoup. À la fois beaucoup m'amuser, puis en même temps c'est un moment de recréation aussi, la scène. C'est-à-dire que je l'ai rechantée, puis après un an de tournée, je me dis c'est maintenant qu'il faudrait faire le disque.
Bon, mais le disque, il est là, il est arrivé après quelques pérégrinations. Chanson de Là où l'œil se pose. Et donc les prochains concerts, c'était la Cigale à Paris les 5 et 6 juin prochains. Merci Juliette d'avoir été notre
Merci
invitée.
Merci Arnaud.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Et bonsoir Arnaud.
Dans Affaires critiques ce soir, vous nous parlez de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett que vous avez vue dans une mise en scène d'Alain Françon.
Oui, ça se joue en ce moment à la Scala à Paris et je suis toujours très curieuse de cette pièce écrite pendant la Seconde Guerre mondiale qui est devenue une pièce de théâtre très populaire, on peut le dire, beaucoup jouée, beaucoup lue, beaucoup étudiée à l'école. Elle fait vraiment partie du patrimoine dramatique français et il y avait du monde dans la salle, un public apparemment très réceptif. Alors, on y regarde deux personnages, Vladimir et Estragon, qui dans un lieu incertain attendent un dénommé Godot qui doit peut-être leur fournir peut-être du travail et un abri. Alors qu'ils attendent, ils font la rencontre d'un autre binôme, composé du propriétaire terrien Pozzo et de son esclave Lucky, tenu en laisse et portant bagages. Le dialogue circule entre de basses considérations sur les conditions misérables de leur existence et de plus hautes, apparemment, sur la vie, le temps, Dieu et le monde, dans une dynamique dramatique qui brouille échelles et valeurs et travaille à tous les niveaux des mécanismes obsédants de répétition et de variation. Alors, le texte de Beckett, c'est une sorte de prison dorée pour le metteur en scène qui a des didascalies hyper précises. Hein. Beckett était un grand écrivain de didascalie, comme autant de directives sur les décors, les costumes, le rythme de dialogue, la gestuelle des personnages, tout est bordé. On sait, par ailleurs, Alain Françon hyper respectueux des œuvres, il l'a montré dernièrement dans des spectacles très efficaces, hein, Molière, Marivaux, une sobriété bienvenue, souvent au service du texte. On aurait pu donc craindre une mise en scène un peu littérale ou un peu plan-plan, disons.
Mais on sent bien dans cette phrase qui reste un peu en l'air, ce n'est pas ce que vous avez vu.
Non, c'est pas ce que j'ai vu, mais il y a quelque chose de ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans la salle? Un plateau quasi nu, sol couvert de traces blanches comme de la craie, à cour, un arbrisseau sec, à jardin, une pierre plate sur laquelle on s'assoit parfois, et puis, en fond de scène, la marque de fabrique de Françon, souvent très convaincante d'ailleurs, une grande toile peinte qui représente une sorte de brume noire-grise ou de boue sale, d'où, quand le noir se fait, semble émaner une lumière assez froide. Entre deux hommes, vêtus de costumes dépareillés, moitié en lambeaux, et de chapeaux melons élimés, vraiment exactement l'image qu'on se fait de Vladimir et d'Estragon à la lecture de la pièce. Par la suite, la corde tirée par Pozzo sera bien une corde, le poulet rongé jusqu'à l'os du poulet rongé jusqu'à l'os. Pour un peu, on sentirait puer les pieds d'Estragon depuis notre siège. En fait, Françon littéralise à l'extrême le texte de Beckett, ce qui lui donne un supplément de corps. Surtout, ça tord le cou à une interprétation répandue de Godot et souvent exclusive des autres, une interprétation cérébrale et allégorique, qui en ferait une fable philosophique sur la solitude humaine et l'absence divine, écrite dans La Tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est souvent ce qu'on apprend sur le théâtre de l'absurde à l'école, c'est pas faux, mais sans doute trop simple. Sur la scène de la Scala, Vladimir et Estragon ne sont certainement pas deux abstractions, ils sont très incarnés, respectivement par les deux grands comédiens que sont Gilles Privat et André Marcon, qui campent un duo au physique contrasté, il y a vraiment un grand fin, un petit gros, comme dans un numéro comique. Ils sont d'ailleurs littéralement cul et chemise, puisque l'un a le pantalon de l'autre, qui lui-même porte sa veste. Dans le texte de Beckett, il est question au détour d'un dialogue de music-hall et de cirque. Là, c'est vraiment une piste évidente pour le spectacle. Ça chante, ça danse, ça mime, ça jongle. On pense au burlesque muet d'un Keaton ou à Laurel et Hardy, et aussi à la faune de romans et de films populaires, parce qu'il y a de la gouaille dans la langue qui perce parfois dans les intonations, notamment celle d'André Marcon, celle qu'il imprime à la langue de son personnage. Ce n'est pas du Beckett froid, mais du Beckett en chair, qui ne snobe pas des référentiels bien reconnaissables et qui ancre ses êtres errants dans des bouts d'époque et dans des semblants de classe. On y sent l'attente comme une matière, de la même manière qu'on sent la faim, les odeurs, le goût âcre du radis noir que Vladimir extrait d'un lambeau de sa veste. Françon, dans cette salle privée des boulevards parisiens, fait de Godot un spectacle hyper intelligent et intelligible, un spectacle populaire.
Oui, mais c'est pas si souvent qu'on réussit un Beckett. Ouais. Alors, il faut aller voir. Donc, en attendant Godot, mise en scène d'Alain Françon à la Scala, à Paris, jusqu'au 8 avril. Merci, Lucine Comeau. Affaire en cours à présent avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, j'adhère, hein. Place à la fête.
Oui Arnaud, la France est une terre de festivals, on compte pas moins de 6000 festivals par an et cette démultiplication n'a pas manqué d'alerter, voire d'inquiéter certains observateurs. Pourquoi surchargeons-nous notre vie d'événements festifs et quid de la fête dans la surabondance festive ? Pourtant, la fête est un élément important de notre vie sociale et culturelle. On se souvient du désarroi causé par les deux années de Covid, où après l'overdose est venu subitement le manque. Contrairement au carnaval, la fête n'est pas nécessairement un moment de subversion du monde établi. Elle est avant tout une production de joie. Je suis allée retrouver Philippe Stenner pour qu'il nous en dise plus sur les liens entre la fête et la joie. Philippe Stenner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne Université. Pour parler de ceux qui s'adonnent à la fête, vous employez le terme de fêteur plutôt que fêtard. Pourquoi ?
C'est parce que je voulais donner un jugement positif à cette idée de participation à la fête. Le terme de fêtard a des connotations négatives. C'est quelqu'un qui abuse, qui en fait trop, qui va à la fête au lieu de remplir ses activités de citoyen ou de travailleur. Et donc j'ai repris ce terme du 19e, fêteur, qui est plus neutre, plus joyeux, etc.
Est-ce qu'il y a une définition sociologique de la fête ? Et en quoi se distingue-t-elle de celle du festival ?
Le festival peut être une fête d'une certaine façon, mais il va avoir comme particularité de fixer l'audience ou la foule sur un spectacle, sur quelque chose qui concentre l'attention. Alors que la fête qui m'a intéressé, dont les fêtes du Sud-Ouest sont un peu la quintessence, c'est l'utilisation de l'espace public. Les gens se retrouvent dans la rue, profitent de cette occupation pour utiliser la ville différemment et se réjouir d'une certaine façon de cette situation. Je prends juste un exemple. Il est très commun, au cours des fêtes que j'ai pu examiner, à Bayonne ou ailleurs d'ailleurs, que les gens s'interpellent alors qu'ils ne le feraient pas quotidiennement. Cette simple ouverture à l'autre, à l'accueil, à la rencontre, c'est ce petit droit à la sottise, en quelque sorte, justement, que les gens s'arrogent.
Alors, vous détaillez plusieurs types de fêtes, mais vous vous attardez surtout sur les fêtes de rue. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ?
La fête de rue a ceci de particulier qu'elle est déambulatoire. C'est-à-dire que les gens vont se déplacer, alors ils vont se déplacer plus dans un endroit, moins dans un autre, mais déambulatoire, ça marque ces fluctuations, ces mouvements dans la ville, et surtout ça marque le fait que le simple fait de descendre dans la rue fait de vous un fêteur. Il n'y a plus de différence, et c'est là la différence avec le festival, par exemple, le concert, il n'y a plus de différence entre les acteurs et les spectateurs. Tout le monde est acteur, tout le monde est spectateur, tout le monde se regarde, tout le monde agit et du coup fait la fête au sens de la participation. J'ai vu des gens très âgés, 85, 90 ans, se mettre à la fenêtre, ouvrir la fenêtre pour que la fête rentre chez eux alors qu'ils n'ont plus la capacité à être eux-mêmes dans la rue. Mais ils font rentrer la rue chez eux et d'ailleurs S'ils n'ouvraient pas la fenêtre, les vibrations de la musique, les bruits, les rires, les chants rentreraient chez eux de toute façon.
La fête est aussi associée à la joie. Qu'est-ce qui, dans les caractéristiques de la fête, fait advenir une émotion comme celle-ci ?
Alors, j'ai parlé de la joie, justement, d'abord pour mettre en évidence l'importance des émotions positives. Parce que d'habitude, on parle, sciences sociales, sciences politiques, etc., des émotions négatives, hein, la haine, l'opposition, etc. Je pense qu'il faut aussi faire place à cette émotion positive, parce qu'elle est aussi dynamogénique, d'une certaine façon. Et puis, il y a quelque chose qui tient au fait que sortir avec sa joie, c'est pas facile d'habitude, parce qu'on peut toujours gêner les gens qui ont les problèmes, les traumatismes de la vie quotidienne ou autre. Là, au cours des fêtes, tout le monde est en joie, tout le monde est potentiellement en joie, et donc cette joie se démultiplie en quelque sorte en voyant les autres qui plaisantent, qui jouent. Faut pas oublier que dans ces fêtes déambulatoires, à Paris, à Lille, à Mexico, au carnaval de Rio ou ailleurs, les gens sortent, ils sont contents, ils ont préparé ça, ils ont des attentes, et toutes ces attentes-là vont rencontrer les attentes d'autrui, ils vont se rencontrer, discuter, rire, jouer ensemble. Et donc, il y a quelque chose qui est terrible. Et surtout, il y a une proximité physique qui est très, très importante. Est-ce que vous êtes à 20 cm d'un visage couramment dans la vie quotidienne, au-delà de vos intimes ? Non. Dans ces fêtes déambulatoires, on est sans cesse confronté à ça. Et donc, on échange des sourires, des petites plaisanteries, pour justement rompre aussi, d'une certaine façon, cette forme de promiscuité que l'on va chercher. Bon, j'ai interviewé des gens qui disent, à qui je demandais, mais la foule, ça vous dérange pas ? Non, au contraire, on va au fond, là où il y a plein de monde, où ça bouge. Donc du coup, je crois que les gens aiment bien ça. En fait, c'est le bain de foule du citoyen.
Pourquoi dites-vous dans cet essai que la sociologie est embarrassée par la joie ?
Ah, pour une raison, historique. Pour aller vite, dans le cas de la sociologie française, on a deux grandes perceptions, en quelque sorte, du comportement humain. La première perception, c'est la perception de la domination qui a été théorisée par Pierre Bourdieu, qui est un phénomène très réel, hein, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Mais une fois que vous êtes dans une logique de la domination, où peut se nicher la joie ? C'est presque une faute de compréhension du monde social dans ce cas-là. L'autre grande option, c'est celle qui avait été développée par mes prédécesseurs à la Sorbonne, Raymond Boudon, qui lui met l'accent sur la rationalité. Si on est en pleine rationalité, est-ce que la joie est rationnelle ? Est-ce que la joie n'empêche pas d'être rationnelle ? Boudon n'a pas vraiment posé la question, ni même répondu, et on peut constater que ni l'un ni l'autre n'ont parlé de la fête et n'ont parlé de la joie. Je pense que la fête est un moment important de la vie sociale, c'est un moment où les gens retissent le lien entre eux, ouvrent vers d'autres rencontres qui seront peut-être éphémères quelques secondes, mais ces petites secondes vont rester. Et puis par ailleurs, on va faire avec nos smartphones, on va faire des photos, on va les mettre sur Flickr, on va les mettre sur Facebook, on va dire aux gens, regardez comme c'était bien, tu devrais venir l'année prochaine. Donc voilà, il y a toute cette participation à la fois présente, rappeler aussi à des passés, parce que les gens font souvent la fête d'année en année, ça appelle les fêtes futures, et tout ça dans une attente de joie, de rencontre, de retrouvailles, de découverte. Bon, le plaisir de la vie, le plus de vie.
Faire la fête, sociologie de la joie, vient de paraître aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup, Philippe Stenner.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque soir à présent, nous quittons ce studio pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la metteuse en scène Eugénie Ravon. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce spectacle que vous mettez en scène et que vous interprétez en nombreuses compagnies, la mécanique des émotions, pour évoquer son point de départ, vous parlez d'un élément déclencheur très fort. C'est normal que j'en parle, excusez-moi, mais votre fille a été victime d'un accident vasculaire cérébral à la naissance et vous êtes retrouvée tiraillée entre deux émotions très puissantes, évidemment très contradictoires, joie de la naissance et peur de la mort. Mais en quoi de cette expérience est venu un désir de théâtre pour vous ?
Alors, je me permets de préciser que c'est moi qui ai eu un accident vasculaire cérébral et pas ma fille. Donc, ça
comme voilà, dans le spectacle, donc.
Absolument. Et donc, en fait, cet accident vasculaire cérébral, effectivement, a été le point de départ d'une envie de s'intéresser au télescopage émotionnel, justement, puissant, qu'on peut ressentir, voilà, lors de ces grandes étapes de vie. Là, il s'agissait d'une naissance. Et comment, en fait, on peut être confronté à cette, comment ça peut faire théâtre? Comment ces émotions ambivalentes, contradictoires, paradoxales, elles peuvent constituer une matière riche pour le plateau?
Alors, c'est un spectacle conçu et mis en scène, et pour partie interprété par vous, Eugénie Ravon, mais le texte et la dramaturgie sont signés Kevin Kays, dont on a souvent parlé dans cette émission. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ?
Alors, déjà, il y avait l'envie d'une collaboration avec Kevin, dont j'aime particulièrement l'imaginaire, les obsessions et surtout cette écriture du présent. Cette écriture qui flirte toujours avec le réel et pour autant qui est très ciselée. Et puis, dans notre collaboration, on a vraiment eu à cœur donc de partir du réel, de partir de ce fil rouge-là, mais aussi de réfléchir plus généralement à ces émotions ambivalentes dont je vous parlais, qui pour moi font un peu le suc de nos vies et qui peuvent être perceptibles, je l'espère, dans notre spectacle. Souvent, quand je parle du spectacle, je cite Cassavetes, mais parce que je trouve qu'il est très juste pour donner à voir la notion de ce qu'on cherche. Il dit que la folie, c'est un individu qui n'arrive pas à jouer avec l'orchestre. Et je trouve qu'on a tous eu des moments où on n'a pas su jouer avec l'orchestre, où on a été à côté, où on a été trop par rapport à ce qu'on attendait de nous. Et c'est vrai que dans ce moment où nous sommes, là, en 2023, où on est continuellement bombardé d'injonctions à vivre nos émotions de telle ou telle manière, ce spectacle, il se proposait un peu comme un contre-programme. Et c'est ça qui a été un champ réflexif pour Kevin Kays et pour moi.
Alors, bombardé, en effet, notamment, évidemment, par l'utilisation des réseaux sociaux, ce qui est une dimension aussi abordée dans cette pièce, Eugénie Ravon, en quoi vous pensez que ça transforme, ça crée quelque chose sur nos émotions?
Alors, déjà, par rapport à ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, l'idée, c'était pas du tout de faire un procès vain sur pour ou contre les réseaux sociaux et les émotions dans les réseaux sociaux, parce que de toute façon, là, on est, ça aurait été assez vite vain. Ce qui nous importait vraiment, c'était justement de proposer du spectacle vivant à partir de ça. Un spectacle absolument sans écran, où c'est un spectacle d'acteurs, où justement, on prend un peu cette espèce de bobsleigh, je sais pas, c'est le mot qui me vient, de bobsleigh des émotions, et on suit, en fait, à travers le kaléidoscope que traverse mon personnage, des émotions justement qui sont tout à fait vivantes, concrètes et pas derrière des écrans.
Et puis évidemment la complexité de faire un travail sur les émotions, c'est que le public puisse lui-même en recevoir, en ressentir. Comment est-ce que vous avez travaillé cette dimension avec vos camarades interprètes?
Alors ça, c'est vraiment exactement tout l'enjeu du travail de direction d'acteur qu'on a pu faire, puisqu'effectivement, il n'y a plus rien de plus versatile que nos émotions, déjà, et puis surtout, comment ne pas confisquer celles des spectateurs. Et donc, les choses qui nous intéressaient continuellement, c'était de trouver aussi les endroits de pudeur, les endroits où on retient, les endroits où on combat, où on lutte dans le jeu, pour que justement, on n'ait pas la sensation de confisquer l'émotion du spectateur. Et donc, dans la direction de jeu, on a vraiment, on essayait de travailler les choses toutes petites, très proches de soi, pour pouvoir avoir après, à certains moments, de grandes puissances de théâtralité. Et c'est vrai que là, je trouve que j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée au plateau et d'avoir des acteurs qui ont vraiment cette capacité, justement, à pouvoir tout à la fois être extrêmement généreux, et ça c'est quelque chose, je crois, qui est vraiment perceptible. Souvent, c'est les retours qu'on a pu avoir des spectateurs, et aussi une grande retenue quand il le faut, pour justement laisser le spectateur se faire son propre drame et ses propres émotions.
Puis avec ce bobsleigh qui navigue dans les émotions, Eugénie Ravon, c'est aussi une navigation sur le plateau, d'après ce que j'en ai lu, n'ayant pas encore vu le spectacle. Beaucoup de changements de décor extrêmement fluides. Il y a là encore aussi une mécanique très précise sous un apparent désordre.
Justement, il n'y a pas de désordre initial. Une chose qu'on trouvait passionnant avec Kevin, c'était vraiment de pouvoir faire émerger la théâtralité et les émotions par la petite porte. Et de toujours emmener le spectateur là où il ne s'y attend pas. Justement, de ne pas jouer, y compris dans la scénographie, de ne pas jouer là où on pense que la scène va nous amener. Et donc, on a une scénographie qui, au départ, est à peine visible et qui, au fil de l'eau, se révèle et qui permet justement des trouvailles, je l'espère, dans l'espace, qui raconte justement notre complexité émotionnelle aussi.
Merci Ginny Ravon pour ces quelques minutes passées avec nous pour parler de ce spectacle, La mécanique des émotions, qui est en tournée et qui sera donc mardi 7 mars au Théâtre de Fos, à Fos-sur-Mer, vendredi 10 mars à l'EMC à Saint-Michel-sur-Orge, du 12 au 14 avril à la Maison des Arts de Créteil, et puis du 18 et 19 avril au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.